Le chapitre 5 de Jean raconte une histoire des plus étranges qui semble sortir tout droit du monde de la magie blanche et qui sert de cadre à une guérison miraculeuse remarquable, suivie d'une polémique orchestrée par les pharisiens et qui concerne les interdits du jour de sabbat. Je commence à lire. Quelque temps plus tard, Jésus remonta à Jérusalem à l'occasion d'une fête juive. Verset 1. A priori, il s'agirait de la Pâque. Cependant, traditionnellement, elle était appelée la fête. Or, ici, il est question d'une fête juive. Il y avait trois célébrations annuelles qui étaient obligatoires pour tous les hommes selon la loi. Je cite le passage qui établit cette règle. « Trois fois par an, tous les hommes se présenteront donc devant l'Éternel votre Dieu au lieu qu'il aura choisi. Lors de la fête des pains sans levain, c'est-à-dire la Pâque, de la fête des semaines, c'est-à-dire la Pentecôte, et de celle des cabanes. » Fin de citation. Dans le deuxième chapitre, il a déjà été question de la Pâque. Et plus loin, le texte mentionnera la fête des cabanes. Bien sûr, il pourrait aussi s'agir d'une autre célébration non obligatoire, celle-là. Quoi qu'il en soit, Jean ne nous le précise pas parce que ce n'est pas vraiment ce qui importe ici. Il veut simplement indiquer la raison qui amena Jésus à se rendre à Jérusalem. Je continue. « Or, dans cette ville, près de la porte des brebis, se trouvait une piscine entourée de 5 galeries couvertes, appelées en hébreu Bethesda. Ces galeries étaient remplies de malades qui y restaient couchés, des aveugles, des paralysés, des impotents. » Versets 2 et 3. L'emplacement de cette piscine existe toujours. Des travaux archéologiques l'ont effectivement localisé dans la partie nord-est de la vieille ville de Jérusalem, qui, au 1er siècle après Jésus-Christ, s'appelait Bézéta, ce qui veut dire la ville neuve. Ce sont des fouilles entreprises en 1888 près de l'église Sainte-Anne qui ont mis à jour les restes d'une ancienne église sous laquelle se trouvait une crypte dont le mur était divisé en 5 parties imitant des arches. Sur le mur, on pouvait encore distinguer les restes d'une vieille fresque représentant un ange en train d'agiter l'eau. Ceux qui avaient bâti cette église avec la crypte croyaient visiblement qu'il marquait le site de la piscine de Bethesda. Donc, dans un premier temps, on a un vieux mur avec les restes d'une peinture. Des fouilles ultérieures en dessous de la crypte, sous le mur avec la fresque donc, révélèrent une série de marches conduisant à une piscine qui en réalité étaient deux piscines côte à côte, avec 5 portiques, creux, sur le côté nord, exactement à l'aplomb des imitations d'arches du mur nord de la crypte. Bref, le site de la piscine de Bethesda a été identifié avec certitude. Ceci est d'autant plus remarquable qu'en l'an 70 de notre ère, je le rappelle, Jérusalem a été totalement rasée, puis une nouvelle ville païenne fut fondée sur la première en l'an 135. Tout ça, c'est peut-être un peu barbant, mais c'est pour illustrer la véracité des détails que nous donne l'évangile de Jean, ou tout au moins du cadre dans lequel le récit prend place. On ne peut évidemment pas tout prouver, mais comme cette piscine existait vraiment, on peut en déduire que l'histoire qui est racontée est vraie et par extension aussi acceptée que le récit que nous fait l'apôtre Jean de la vie du Christ est exact dans ses moindres détails. Ceci dit, ce qui nous intéresse, c'est qu'il y avait un grand nombre de malades. Cette affirmation illustre l'état spirituel lamentable dans lequel se trouvait la nation d'Israël à l'époque du Christ. Quel rapport me direz-vous ? Eh bien, l'Éternel avait promis à son peuple que s'il lui était fidèle, il ne serait affligé par aucune des maladies qui décimaient les païens. Cette promesse était strictement réservée à Israël, entendons-nous bien. Cependant, elle tenait toujours à l'époque où les évangiles furent rédigés, car Jésus est né, a vécu et a exercé son ministère alors qu'il était sous le régime de la loi de Moïse. Le Nouveau Testament, ou plutôt l'ère de l'Église chrétienne, n'a commencé qu'au jour de la Pentecôte. Voici maintenant une petite histoire. Un jour, dans un sanatorium pour enfants, il y a eu une petite fête organisée en leur honneur. L'un d'eux récita le chapitre 5 de l'Évangile de Jean en entier et ne commit qu'une seule erreur. En effet, au lieu de dire « Ces galeries étaient remplies de malades, des aveugles, des paralysés, des impotents », il a dit « Des aveugles, des paralysés, des importants ». Bien sûr, plus d'un a souri à l'entendre. Cependant, à y réfléchir, ce petit garçon a dit sans le savoir une profonde vérité. Tous ces gens malades étaient importants pour Jésus. C'est pour cela qu'il est allé leur rendre visite afin de leur donner l'occasion de croire en lui. Comme cette femme samaritaine précédemment, il y avait là un homme que Jésus avait plus particulièrement à l'esprit et il était paralysé. Je continue maintenant le texte. Ces malades attendaient le bouillonnement de l'eau, car un ange du Seigneur descendait périodiquement dans la piscine et agitait l'eau. Et le premier qui y entrait après le bouillonnement était guéri, quelle que soit sa maladie. Verset 4. C'était en tout cas ce que les gens croyaient. Les textes sacrés n'enseignent nulle part ce genre de superstition qui revêt en fait l'aspect d'un concours cruel pour bon nombre de malades. Tous les manuscrits grecs qui nous sont parvenus et qui datent des 4 premiers siècles après Jésus-Christ ne contiennent pas ces paroles étranges. D'après les spécialistes qui étudient ce genre de choses, ce passage aurait été rajouté par un scribe pour expliquer la tradition locale. Les copistes se permettaient quelquefois des fantaisies, et ce passage en est peut-être bien une. Jamais ils n'auraient osé ôter quoi que ce soit du texte. Par contre, y ajouter par voie d'explication était une pratique rare, mais possible. En tout cas, ces malades se trouvaient là parce qu'ils croyaient vraiment que la possibilité de guérir de cette façon était plausible. Aujourd'hui encore, beaucoup de malades courent ici ou là dans l'espoir de trouver un remède à leur mal, et je les comprends tout à fait. Beaucoup ont une véritable affliction physique, tandis que d'autres souffrent plutôt d'une maladie qu'on qualifie de mentale par manque d'un meilleur mot. Les détresses d'origine hystérique, par exemple, peuvent conduire à la perte de la vue ou à toutes sortes d'autres problèmes de santé en apparence très graves. Donc, parmi ces gens qui attendaient le mouvement de l'eau, il y en avait certainement qui souffraient d'un mal de vivre qui s'était exprimé en symptômes physiques. Ceux-ci, peut-être plus que les autres, pouvaient trouver la libération de leur mal en se baignant dans une source d'eau dite miraculeuse. Au milieu de tout ça apparaît Jésus. C'est lui qui compte dans cette histoire et pas le bouillonnement de l'eau, quelle qu'en soit son origine. Je continue. Il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Verset 5. L'attention de Jésus se porta sur un malade, un jour de sabbat et pendant une fête. Voilà 38 ans que ce paralysé est en souffrance. Après toutes ces années, on peut dire que son corps est désespéré. Peut-être était-il même le plus affligé de tous. La suite du texte nous apprend que son état était le résultat du péché sans aucune autre précision. Quelqu'un l'aidait-il à venir ici le matin pour venir le chercher le soir ou rampait-il jusqu'à ce lieu par ses propres moyens? On ne sait pas. Mais il est facile d'imaginer ce pauvre homme étendu par terre, les yeux fixés sur l'eau, attendant patiemment son bouillonnement. La vie se nourrit d'espoir et il espérait toujours que la prochaine fois serait la bonne, qu'il se traînerait suffisamment vite pour arriver le premier jusqu'à l'eau. Mais il n'avait connu que déception sur déception. Quelqu'un d'autre atteignait toujours la piscine avant lui. Il avait sans aucun doute assisté à des guérisons apparentes ou réelles, on ne sait pas. Je continue. Jésus le vit coucher quand il sut qu'il était là depuis si longtemps. Il lui demanda, « Veux-tu être guéri ?» Verset 6. Le vocabulaire employé indique que Jésus savait de quel mal cet homme souffrait, sans doute à cause de sa connaissance surnaturelle. Il lui pose une question bien étrange, n'est-ce pas? Bien sûr qu'il voulait recouvrir la santé. Pas si sûr. Pensez au changement que cela allait occasionner dans sa vie. Un handicap, ça a aussi des avantages. Dans le livre du docteur Carl Simonton, qui s'appelle « Guérir envers et contre tout », l'auteur dit que certaines personnes ne veulent pas vraiment retrouver la bonne santé parce qu'en tant que malades, leur entourage non seulement est aux petits soins avec eux, mais encore accepte tous leurs caprices. Quoi qu'il en soit, si ce paralysé vivait de mendicité, une fois guéri, ce serait terminé. Il lui faudrait subvenir à ses propres besoins, trouver un travail, assumer certaines responsabilités comme tout adulte. Sachant qu'il voulait guérir, le Seigneur lui posa cette question. « Veux-tu être guéri ?» Pour deux raisons. D'abord, pour stimuler sa volonté et lui redonner l'espoir. Après 38 ans, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il devait être désespéré. Il venait bien là, au bord de la piscine, tous les jours, mais c'était plutôt une affaire de routine qui lui donnait quelque chose à faire, un endroit où aller, un but en quelque somme. Il n'y croyait plus en la guérison. En second lieu, Jésus voulait que cet homme quitte des yeux la piscine pour le regarder lui. Ce paralysé ne prêtait sans doute pas trop attention aux autres, juste à l'eau. Alors imaginez-vous sa surprise quand il a entendu quelqu'un s'adresser à lui et poser cette question apparemment absurde. Il a dû sursauter. À un autre niveau, cette histoire m'interpelle. Le plus grand problème des hommes est qu'ils refusent d'admettre qu'ils sont malades et décadents, ce qui fait qu'ils ne sont pas conscients de leurs besoins du Sauveur. Un peu de religion ou une bonne action ici et là fera l'affaire, pense-t-il. Ou alors, comme ce paralysé, ils ont les yeux fixés sur une préoccupation quelconque de leur vie, dans l'espoir que les choses vont bouger, que je pourrais faire ceci ou cela et améliorer mon sort. Dans l'État du Texas, il y a beaucoup de puits de pétrole desséchés. Mais leurs propriétaires les surveillent constamment quand même, dans l'espoir fou qu'un jour, comme ça, l'or noir jaillira à nouveau et qu'ils deviendront riches. En attendant, ils ne font attention à rien d'autre, encore moins à l'état de leur âme. En fin de compte, leur puits de pétrole à sec est leur idole. Jésus dit en substance à cet homme paralysé, « Détourne tes yeux de la piscine et regarde-moi. » Je continue le texte. « Maître, répondit le malade, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau commence à bouillonner. Le temps que je me traîne là-bas, un autre y arrive avant moi. » Verset 7. Quelle souffrance! Ce pauvre homme est désespéré, seul et sans foyer, car sans doute rejeté par sa famille. Il réplique que ce n'est pas le désir de guérir qui lui manque, mais les moyens de parvenir au bouillonnement miraculeux, car sans force et apparemment sans ami véritable, il ne pouvait pas y arriver. Évidemment, les personnes les plus gravement atteintes étaient celles qui avaient le plus de mal à entrer dans la piscine. Cet homme ne connaît pas Jésus et rien n'indique qu'il y a de sa part une foi quelconque. Il n'envisage retrouver la santé que par rapport à l'eau bouillonnante. Il se dit donc que cet étranger qui est venu lui adresser la parole l'aidera peut-être à descendre dans la piscine au prochain passage du soi-disant ange. Dans la plupart des récits des évangiles, celui qui cherche une guérison ou un proche de celui-ci fait une démarche de foi. Mais la puissance de Jésus n'est pas limitée par quoi que ce soit et certainement pas par l'attitude du malade. Il est intéressant de noter que le Seigneur n'argumente pas la vertu du bouillonnement miraculeux. On ne sait donc pas ce qu'il en pensait. Quand on lit les Écritures, il est fréquent de désirer davantage de renseignements, ici ou là. Mais la plupart du temps, Dieu a choisi de ne pas satisfaire notre curiosité, afin que notre attention ne se détourne pas de l'essentiel vers ce qui est secondaire. Je continue le texte. « Eh bien, lui dit Jésus, lève-toi, prends ta natte et marche. À l'instant même, l'homme fut guéri, il prit sa natte et se mit à marcher. » Versets 8 et 9. En lui ordonnant ainsi de se lever et de marcher, Jésus lui en donnait également la capacité. Ses paroles accomplirent le miracle. L'homme a dû ressentir en lui-même ses forces soudainement revenir, ses muscles atrophiés par des années d'inactivité reprendre forme. La puissance surnaturelle de Dieu fut évidente dans la guérison instantanée de cet homme. Un prophète de l'Ancien Testament avait prédit que du temps du Messie, de tels prodiges auraient lieu. Je cite le passage. « Là, on verra la gloire de l'Éternel et la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux chancelants. Ce jour-là s'ouvriront les oreilles des sourds et les yeux des aveugles. Et alors le boiteux bondira comme un cerf et le muet criera de joie. » Fin de citation. Et c'est ainsi qu'à Jérusalem, un signe que le Messie était venu avait été accompli. Malheureusement, maintenant le temps va se gâter. Je continue le texte. Mais cela se passait un jour de sabbat. Les responsables des Juifs interpellèrent donc l'homme qui venait d'être guéri. « C'est le sabbat. Tu n'as pas le droit de porter cette natte. » Verset 10. Avec les lois de pureté rituelle et la circoncision, le sabbat était l'un des éléments majeurs de l'identité juive. Ce jour de repos était au centre des conflits entre Jésus et ses adversaires. La loi de Moïse exigeait que tout travail cesse alors. D'autres règles, créées beaucoup plus tard par les autorités religieuses juives, vinrent compliquer les choses et ajouter au devoir initial. Ces traditions, toutes humaines, obscurcirent souvent les desseins divins exprimés dans la loi de Moïse. À l'origine, le sabbat a été conçu pour qu'il puisse donner du repos à l'homme et qu'il puisse ainsi passer du temps dans l'adoration de son Dieu. Or, la tradition juive, rigoureuse, enseignait que celui qui transportait volontairement un objet quelconque d'un lieu public à un lieu privé un jour de sabbat devait être lapidé jusqu'à ce que mort s'ensuive. Ainsi, l'homme qui venait d'être guéri était maintenant en danger de mort. Je continue. « Mais, répliqua-t-il, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ta natte et marche. Et qui t'a dit cela ? Lui demandèrent-ils. Mais l'homme qui avait été guéri ignorait qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui se pressait en cet endroit. » Versets 11 à 13. Celui qui avait été guéri se rendait bien compte qu'il était en train de violer la tradition, mais il ne faisait que suivre les directions que Jésus lui avait données. En voulant savoir qui avait dit de violer leurs règles, les teignes religieuses se rendent ridicules au possible. Ils ont sous leurs yeux la preuve de la guérison, mais ils en sont profondément contrariés. Au vu de leur comportement, il y a vraiment des coups de bâton qui se perdent. Cet ancien paralysé n'avait aucune notion du Christ. Il avait été guéri sans la moindre parcelle de foi de sa part. C'était une démonstration de pure grâce à l'égard de cet homme et une manifestation de la gloire de Dieu en lui. Je continue. Peu de temps après, Jésus le rencontra dans la cour du temple. « Te voilà guéri, lui dit-il, mais veille à ne plus pécher pour qu'il ne t'arrive rien de pire. » Et l'homme alla annoncer au chef des Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Versets 14 à 15. Jésus l'avait cherché pour l'avertir que le péché a des conséquences non seulement temporelles, mais surtout éternelles. C'est ici que Jésus fait allusion à la raison de l'infirmité de cet homme. Il s'était rendu coupable vis-à-vis de Dieu d'une certaine manière. Mais un jour, le paralytique impotent fut rencontré par Jésus, Dieu omnipotent, qui lui rendit la santé. Maintenant, le Seigneur voulait aussi et surtout guérir son âme. Cependant, cet ancien grand infirme ne semble avoir aucune reconnaissance envers Jésus. Le texte donne la sinistre impression qu'il alla dénoncer Jésus aux autorités juives. C'est comme si pendant la Deuxième Guerre mondiale, quelqu'un était allé trahir un résistant à la Gestapo. La conduite de cet homme le place sous un très mauvais jour, et cela d'autant plus qu'apparemment, de tous les malades dans la galerie, il fut le seul à être guéri. Et sur ces paroles, je termine pour aujourd'hui.